la dispute. Ce soir, les séries. Cette émission est préparée par Justine Dibling, Camille Ferré, Virginie Ledio et Boris Pino. Prise de son ce soir, Manuel Couturier, réalisation Daniel Finot. Ce soir, Lucille Como, Iris Bray, Romain Burel et Antoine Guillot sont autour de moi à notre affiche « When We Rise » de Dustin Lance Black. Black, diffusé sur Canal+, série « Beau séjour » de Nathalie Bastens, Kat Bells, San Neuens et Bert Vandel. C'est diffusé sur Arte, aussi en coffret DVD et Blu-ray, « Big Little Lies » et diffusé sur OCS City. Vers 21h20, autre série au programme, ce sera dans le petit salon de Lucille Como. Nous parlerons de Louise, qui a été diffusée sur TF1, et puis des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour les expositions Le Baroque des Lumières, chef-d'œuvre des églises parisiennes, et De Watteau à David, la collection Horwitz, deux expositions à découvrir au Petit Palais à Paris jusqu'au 9 juillet. Et nous ouvrons cette émission avec la mini-série créée et écrite par Dustin Lance Black, When We Rise, diffusée en France en 8 épisodes de 52 minutes. Dustin Lance Black avait notamment reçu l'Oscar du meilleur scénario en 2008, c'était pour Harvey Milk, réalisé par Gus Van Sant, biopic consacré à cet homme politique, militant pour les droits des homosexuels, premier élu ouvertement gay de la ville de San Francisco, qui a été assassiné en même temps d'ailleurs que le maire de la ville en 1978. On retrouve Gus Van Sant au générique de When We Rise, parmi les producteurs exécutifs et à la réalisation du premier ou deux premiers, découpés différemment en France, épisodes. When We Rise retrace de 72 à 2015 l'histoire du mouvement pour les droits des homosexuels aux États-Unis, pour une bonne part basée sur les mémoires de Cliff Jones, militant très important dans cette histoire.
Dad, I'm gay.
It's an illness. It can be treated.
If we ever want to be free, we have to stop hiding.
It wasn't just me who heard the call. It was all of us.
What we consider our family and what the law considers family may be two different things.
Order! We will have order here! We are not a menace! We will not be silent any longer!
I'm not a gay man.
You want to be my daughter?
I always was. And we'll
rise up! Inspired by the real people. Fighting for social justice in America.
We must rise up and take our determination to Washington and demand full equality now.
Guy Pearce, Mary Louise Parker, Michael Kenneth Williams, and Rachel Griffiths.
Whoever you are not alone.
When We Rise, an original television event.
Un événement original pour la télévision. Tiens, je vais lancer le débat pour une fois. Disons que c'est vrai que c'est un cas d'école, When We Rise, ce que je trouve à bien des égards la série très mauvaise, avec une vertu pédagogique par contre extrêmement importante et bien réelle. Une série qu'on aurait pu imaginer programmée sur la chaîne Histoire ou beaucoup mieux sur France 2 en prime time, ça, c'est pas le cas. Parce que c'est une histoire qui nous est contemporaine et qui est quand même très mal connue. Moi j'avoue qu'il y a des choses que j'ai apprises alors que je pensais quand même bien connaître cette histoire-là. Ce qui est bien, c'est que c'est aux États-Unis ABC qui a diffusé When We Rise, donc un network important qui touche des millions d'Américains. Par contre, pour y revenir au niveau de l'écriture, c'est vrai que c'est quand même d'un pathos, on va dire, assez épais. Jeu des acteurs souvent épouvantable. Très épouvant pour moi, en tout cas. Donc, c'est voilà, cas d'école. When We Rise, série que je trouve très mauvaise. Et en même temps, très nécessaire. Romain Burel.
Alors déjà, elle ne va pas être si mauvaise que ça si vous avez appris des choses, parce que je crois que le grand défi de cette série...
Ouais, je peux lire un livre pour apprendre des choses.
Vous voyez ce que le grand défi de cette série...
J'aurais dû lire les mémoires de Cliff Jones, par exemple.
Par exemple, ouais. qui est d'ailleurs la base de la série.
Est-ce que c'est publié en France? Je n'ai pas vérifié.
Je crois qu'on le trouve, mais il n'est pas publié en
édition française,
en tout cas.
Je veux
dire, non, pas encore, je crois.
C'est ça.
Mais
avis aux éditeurs.
Mais en tout cas, c'est la vertu, le côté pédagogique de la série, il est absolument assumé par les producteurs et par l'auteur de la série.
Il manquerait plus que ça.
Parce que l'idée, c'est pas de s'adresser aux gens qui connaissent l'histoire des personnes LGBT, notamment du militantisme aux États-Unis.
LGBTQ, soyez à jour.
QI, etc.
Oui.
Non, ils disent LGBT hein, d'ailleurs dans la série.
Oui, mais pour en parler aujourd'hui, ils disent LGBTQ.
Mais c'est vraiment d'aller toucher l'autre Amérique, celle qui ne connaît pas ces questions-là, celle qui est peut-être, qui a peut-être même voté Trump. C'est ce que m'a expliqué par exemple Gus Van Sant récemment. Et c'est ça qui est, je trouve, assez intéressant dans la série, c'est d'aller s'adresser sur un network pas évident qui est ABC, donc qui est quand même une chaîne qui appartient au groupe Disney. De s'adresser donc d'apprendre toutes ces choses-là à cette Amérique-là en tout cas. Donc moi je trouve la série plutôt réussie. Je trouve par exemple les deux pilotes réalisés par Gus Van Sant vraiment très très beaux. Je trouve que on croit aux années 70 absolument quand on est dans quand on évolue dans la série dans les deux premiers épisodes. En tout cas je trouve qu'il y a quelque chose de très juste en termes de costumes, de coiffures, etc. qui m'aurait pu être très très gênant si jamais c'était raté. Il y a des moyens. Je trouve que c'est à saluer qu'une chaîne comme ABC donne des moyens
bien
à une
sûr,
série
oui, absolument,
pour faire une série pas évidente. En plus, je suis pas sûr que une chaîne française oserait faire une série comme ça aujourd'hui, à 3 ans après Le mariage pour tous, en tout cas.
Premier regard d'Iris Bray sur When We Rise.
Alors, plusieurs choses. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que la série devait être diffusée 4 nuits consécutives. Or, elle a dû être décalée d'une nuit pour qu'on entende le discours de Trump. Donc déjà, elle est nécessaire. Mais parlons quand même un peu de l'objet sériel en tant que tel. Moi, j'ai beaucoup aimé la première... Ah, donc, il faut expliquer qu'il y a un changement d'acteur. C'est-à-dire que quand on est dans les années 70, on est avec ces personnages... 70 et 80, on est avec ces personnages qui ont envie de lutter. En tout cas, il y a cet éveil politique très fort. Puis, quand on bascule après les années SIDA, ils sont remplacés par un autre casting. Et moi, j'ai trouvé ça extrêmement déroutant et ça m'a beaucoup moins intéressée. D'ailleurs, le réalisateur de ces épisodes-là, c'est Thomas Schlamm qui réalisait The West Wing. Et on sent qu'on a envie de se rapprocher de la Maison Blanche. Et moi, ça ne m'intéresse plus. Par contre, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont là pour nous faire pleurer, mais moi je trouve que c'est un lyrisme en fait, et c'est pas quelque chose de dérangeant. Moi j'ai trouvé ça assez impressionnant de suivre ces acteurs, et d'ailleurs cette jeune actrice qui joue Roma, donc Emily Skeggs, que j'ai trouvé absolument incroyable. Moi je trouve que c'est une manière de rentrer dans l'histoire. On n'aurait pas vu ça sur la chaîne historique comme History Channel. Je pense que ça a vraiment sa place sur ABC, et pour moi ces premiers épisodes en tout cas font que c'est une bonne série.
Antoine Guillot.
Oui, je suis assez d'accord pour ça, que ce que ça gagne sur le plan politique, ça le perd par moment sur le plan esthétique, mais de faire de cette série, d'utiliser comme moteur des combats politiques et pas les arrière-cuisines de la politique, comme on le voit généralement dans les séries consacrées à la politique, mais de voir vraiment qu'est-ce que c'est que la politique en action, qu'est-ce que c'est que de faire des alliances, quel impact ça peut avoir sur la vie privée, comment on se sert de sa vie privée pour obtenir des avancées politiques avec des personnages extrêmement ambigus sur la question du mariage, je trouve ça assez passionnant. Et je trouve ça très intéressant, effectivement, d'utiliser les pires recettes du pathos, la musique larmoyante, les personnages qui souffrent et on pleure avec eux, puisque le propos toujours du combat politique de Steve Jones, c'est gagner les cœurs avant de gagner les esprits. C'est vraiment d'émouvoir et de montrer, regardez, nous sommes comme vous, vous nous connaissez, nous sommes vos enfants, vos voisins, nous sommes vous-même. Et donc, en faisant de ces personnages des personnages aussi nunuches qu'on peut en trouver dans le cinéma majoritaire américain et dans les séries télévisées telles que diffusées sur des grands réseaux à des heures de grande écoute, ils obtiennent cette avancée politique certainement. Et s'ils font pleurer dans les chaumières, tant mieux. Après, le souci, c'est pas seulement qu'il y ait Steve Jones derrière, mais ils sont tous derrière. C'est quand vous regardez les consultants, c'est le premier carton qui apparaît dans le générique de fin, tous les personnages principaux sont consultants sur la série. Donc tous leurs personnages sont sous contrôle. Ils sont là pour donner l'image d'eux-mêmes qu'ils veulent donner, y compris dans les moments de perdition, avec la rédemption derrière. On est dans le grand récit américain, mais toujours contrôlé par eux. Ce qui fait que les personnages échappent plus à eux-mêmes, effectivement, dans les premiers épisodes, quand ils sont jeunes, ou là, et avec la patte de Gus Van Sant derrière, ils sont une matière à fiction, à fraîcheur, à jeunesse, à une sorte d'enthousiasme assez passionnant à voir. Quand ils deviennent adultes et que là, il y a ce changement de casting, on sent que comme ils se rapprochent de ce que sont ces gens aujourd'hui, on peut plus trop partir dans la fiction, et on est dans des personnages emblématiques, dans des figures comme ça, extrêmement, qui se veulent charismatiques, qui veulent faire pleurer, mais qui perdent en humanité, d'une certaine façon.
Oui, en qualité de jeu quand même aussi d'écriture, parce que Cliff Jones, alors c'est il y a Steve Jones, pardon, et il y a Cliff Jones. Steve Jones, c'est
Ken
celui qui
Jones,
non, il y a Ken Jones, Ken, pardon, et Ken. C'est Cliff, voilà.
Ken, c'est celui qui était marine, noir juif, ce qui faisait évidemment noir juif. Je ne sais pas s'il est juif, noir gay, pardon, ce qui fait beaucoup apporter.
C'est intéressant ça.
Oui, oui, mais enfin bon, on en reparlera. C'est vrai que l'acteur qui joue la deuxième partie est quand même épouvantablement mauvais, alors que je trouve que celui qui joue
mal dirigé,
il est mal dirigé, parce que quand, impossible
quand
à dire.
Omar, quand il jouait Omar dans The Wire, il était formidable.
Oui, mais là, il est épouvantablement mauvais, on est d'accord, parce que le texte est mauvais et que c'est pas possible de donner un personnage de ce niveau-là. Enfin, donc c'est vrai que c'est très problématique. Guy Pearce, qui est un acteur que j'aime beaucoup, là aussi, il en fait quand même des tonnes. On n'a pas encore entendu Lucille Como sur When We Rise.
Moi, j'ai vu que les deux premiers épisodes. En fait, moi, j'ai du mal à désolidariser la question esthétique et la question politique, parce que je trouve que c'est tellement mauvais du point de vue de la série, de comment on construit une série, que ça dessert totalement la question politique. Alors, j'ai vu que deux épisodes, donc je ne sais pas comment ça évolue.
Censément être bon, mais... moi, je n'ai pas vu Gus Van Sant derrière la caméra.
Mais c'est génial.
C'est une parodie de Gus Van Sant, peut-être, mais
puis
pas
surtout,
Gus Van Sant,
en fait,
comme on l'a
sur
aimé.
Que, sur les, c'est, on a l'impression qu'ils ont créé une coquille avec des personnages de fiction. Alors, bon, en effet, c'est pas forcément des personnages, c'est pas ça qui est intéressant, mais il est bourre de dialogues, enfin, les scènes sont archi bourrées de dialogues un peu théoriques qui, du coup, essayent de soutenir un discours sur la question LGBT. Or, c'est extrêmement primaire. Je pense, par exemple, à ce dilemme qui traverse un des personnages principaux, donc qui s'appelle Roma, qui ne sait pas au départ si elle doit continuer à militer, ce qu'elle a toujours fait, au sein d'une association féminine de droits des femmes, féministe, voilà, ou d'une association composée de lesbiennes à San Francisco, parce qu'elle arrive en Californie. Et ce type de dilemme-là qui renferme des questions théoriques passionnantes sur justement ce qu'est le féminisme, ou ce qu'à cette époque-là c'était de vouloir militer, et où est-ce qu'on se retrouve quand on veut militer, alors qu'il y a une sorte de galaxie de possibilités d'association, c'est évacué de manière extrêmement banale. Et du coup, ça dessert presque le propos, parce que ces personnages sont à la fois creux et on ne peut pas s'identifier ni à leur lutte, ni à leur caractère. Enfin, et je me demande si ça ne dessert pas, finalement, la question LGBT, justement.
Iris, ouais.
Bon, moi, je suis pas du tout. Je ressens pas du tout ça, parce que moi, je trouve que justement, c'est cette question-là de comment est-ce qu'on se positionne, avec qui est-ce qu'on va lutter, est une question importante. Et je trouve que là où est bien mis en scène, parce que elle réussit quelque chose, cette série, dans les trois premiers épisodes, c'est de montrer ce que c'est que l'intersectionnalité. C'est-à-dire que pour une fois, on a une série qui va penser comment est-ce que la lutte des femmes, des hommes homosexuels, de ceux qui sont noirs et homosexuels. C'est-à-dire qu'on ne va pas séparer ces trois choses-là, on va voir les liens, en fait, qui tissent toutes ces oppressions, et ça, c'est jamais vu à la télé, et ça, c'est super bien fait, je trouve. Et de voir ce ralliement, en fait, entre les causes féministes et les droits LGBT, je trouve que c'est très puissant, je trouve que c'est très bien montré, et je trouve que c'est les moments où on vibre le plus avec Roma et Clive, en fait. Je trouve que c'est ces moments de rencontre, et aussi quand toutes les femmes se mobilisent pendant la première épidémie de HIV à Los Angeles et à San Francisco, de voir voilà, ces femmes qui, pour une fois, vont se solidariser. Enfin, de voir ça, je trouve qu'aujourd'hui, c'est des questions qu'on ne se pose absolument pas. On est chacun dans notre coin, on ne pense pas aux autres. Et je trouve que, pour une fois, une série montre qu'est-ce que c'était dans les années 70 de réfléchir à ces questions-là et de voir comment tout ça est lié.
Mais vous connaissez cette histoire. Donc, le ralliement, vous le voyez parce que ça sous-tend. Enfin, y a un propos qui sous-tend. Mais moi, qui ne connais pas du tout cette histoire-là, quand je vois cette espèce de ralliement, alors à la fin du deuxième épisode, c'est ça, hein, ils se retrouvent tous dans un bar, donc on a chaque personnage représente une cause particulière et ils se retrouvent à boire un verre dans un bar, c'est totalement artificiel et du coup ça n'a pas de sens politique, il y a aucun discours derrière ce ralliement-là.
Mais pourquoi c'est artificiel? C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui s'est passé?
Parce que le scénario, non, mais le scénario ne l'amène pas. Enfin, je veux dire, il y a pas de réflexion du tout. Bah,
non,
c'est au contraire
tout l'arc narratif du scénario, et c'est comme ça jusqu'à la fin. C'est sur la convergence des luttes incarnées par des personnages, mais qui sont au-delà même de métaphores. Le côté didactique, pour moi, fonctionne dans la mesure où sont des personnages obsédés par la politique, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent jamais à s'en débarrasser. Ça montre assez bien, d'ailleurs, la frustration qu'ils ont chaque fois qu'ils remportent une victoire, parce que ce n'est jamais assez, et surtout parce qu'ils n'ont plus rien dans leur vie. Ils ont fondé toute leur vie sur la politique, ce qui donne des éléments didactiques assez intéressants. Pour moi, qui connaissais très peu aussi toute cette histoire, l'ayant pour beaucoup découverte en voyant Harvey Milk, les épisodes précédents du combat de Black. Je trouve ça assez fortement incarné. Après, c'est vrai que c'est mal écrit, c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. Plus on se rapproche des problématiques actuelles, plus ils ont du mal à mettre ça en fiction. Mais au bout du compte, si vous dépassez les deux épisodes que vous avez vus, ces personnages acquièrent une vraie sédimentation parce qu'ils ont un passé politique auquel il est fait référence, y compris en mettant les militants d'aujourd'hui face à voilà.
Je les trouve très monolithiques, moi, à l'inverse, parce que ils le disent eux-mêmes dans la série. Moi, j'ai l'impression que ils sont posés comme voilà des acteurs militants voilà qui vont faire changer les choses dès le premier épisode. Moi, je trouve qu'il y a aucun.
Oui, mais ils sont sédimentés sur une histoire, sur une mémoire des luttes qu'ils incarnent. Mais
que
ça,
soit
je pense
Romagaï,
que encore une fois, c'est le problème d'avoir les personnages réels comme consultants pour une série.
Donc la sédimentation, elle est
historique.
Elle est historique, mais elle est pas incarnée pour moi. Vous voyez.
Écoutez,
je vous apporte la contradiction.
Très sincèrement, j'ai fini par tellement m'attacher au personnage que je ne vous cacherai pas que j'ai versé ma petite larme à la fin.
Mais moi aussi, j'ai versé ma larme au dernier épisode.
Ça a absolument marché sur moi aussi. Voilà.
Mais en marchant sur
l'intersection du politique et de l'intime. C'est-à-dire qu'on est content du résultat politique parce que ça touche à l'intime.
Et moi, je pense que le mélo, parce que c'est vraiment un côté mélo, est un super bon levier pour faire passer ces idées-là. Je trouve que pour avoir un effet de dire effectivement ces gens sont différents de moi et puis finalement je m'identifie à eux.
Mais moi je pleure à This Is Us, alors on s'est suffisamment moqué de moi, à part Iris qui a un cœur, elle. Je sais, c'est la répartition des cœurs toujours. Mais moi j'ai pleuré à la fin de When We Rise, c'est pas la question. C'est pas pourtant que j'adhère à l'esthétique, à l'écriture et que je vois pas tous les défauts énormes pour moi de cette série.
La série elle a objectivement quelques défauts d'écriture, ça je pense que même.
Quel euphémisme. Vous êtes à fond
même
là, Romain.
Même Silence Black l'a récemment reconnu, je crois, dans une interview dans le New York Times. Mais
qu'il l'a vu.
Pour revenir à ce que disait Antoine, je pense qu'il vraiment crucial, c'est qu'effectivement le film Harvey Milk, je crois que c'est intéressant de le voir juste avant de voir la série, parce que pour moi,
c'est déjà éprouvant la première fois, donc
est un spin-off un peu de Harvey Milk. D'ailleurs, les militants qui sont présents dans la série étaient de l'entourage en fait d'Harvey Milk. C'est des gens qui gravitaient autour de lui, notamment à la mairie de San Francisco.
Ouais.
Moi, le personnage le plus intéressant, je trouve, que dans cette série, c'est la famille. Je crois que c'est le thème qui est un peu le plus central là-dedans. C'est qu'on voit que c'est le premier théâtre de la brutalité.
Bien sûr.
Parfois même du soutien, même maladroit, en tout cas. Et je trouve intéressant que ce soit une série sur la famille et qui s'adresse, qui parle des nouvelles familles, celles qu'on se crée, celles qu'on décide de se tisser, qu'on décide de choisir. Et je trouve intéressant que la série s'adresse aussi donc à une famille américaine, on va dire lambda, qui partage peut-être pas ces combats-là, mais qui va probablement les découvrir grâce à cette série.
Non, mais encore une fois, je trouve les propos très justes, je trouve l'intention formidable. Après, voilà, on est là aussi pour parler de création, et à ce niveau-là, voilà, je ne cache pas mon extrême déception. Bon, When We Rise, parce que on a un lourd programme, hein, et puis le débat va se poursuivre dans un instant. Cette série créée par Dustin Lance Black, il y a une deuxième diffusion à partir c'était à partir de hier soir, avant-hier soir sur Canal Plus série, et puis la série est disponible sur Canal Plus à la demande.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte. Get the right.
Et à suivre dans La Dispute, Beau Séjour, Big Little Lies, et avant cela, une autre série dont il va être question dès à présent avec Lucine Como dans Le Petit Salon. Et un petit salon, il sera question d'un « e » entre parenthèses, Lucille.
Oui, il y a quelques semaines ont été diffusés sur TF1 deux épisodes de ce qui est pour le moment un long téléfilm et pourrait devenir une série, Louise. Louise écrit donc « Louis » avec un « e » entre parenthèses, je précise. L'héroïne de cette fiction commandée et produite par la première chaîne est une femme transgenre. Et cette nouveauté dans le paysage audiovisuel français ne manque pas de susciter nombre de commentaires dans la presse. Rappelons d'abord en quelques mots le propos de Louise. Tout commence dans une petite maison cossue. Agnès fête l'anniversaire de son fils avec son nouveau compagnon, Adrien, quand elle voit débarquer Louise, médecin quinquagénaire, qui s'installe juste en face de chez eux. Elle reconnaît immédiatement son mari qui les a quittés 7 années plus tôt pour entamer sa transition. Louise revient donc pour retrouver ses enfants et doit affronter le regard de son ancienne femme, de son frère et de certains de ses patients. La plupart des commentaires dans la presse concernent évidemment davantage le sujet de société traité par la série que la qualité télévisuelle de l'objet en question. Preuve en est, de nombreux journaux ont fait appel à des personnes concernées par la cause transgenre, transsexuelles eux-mêmes ou membres d'associations, pour commenter le scénario et le caractère vraisemblable de l'existence de cette héroïne. Tout le monde remarque que la France était très en retard de ce point de vue, aux États-Unis notamment. La cause transsexuelle était incarnée par 2 personnages importants et populaires dans les séries Orange is the New Black et surtout dans Transparent, que tout le monde cite en référence. Première impression, de manière générale, les propos sont plutôt indulgents. Le Huffington Post salue une belle tranche de vie, je cite, saupoudrée de tolérance et d'humanité, qui n'élude aucune des difficultés que peuvent rencontrer les trans dans ce bas monde, je cite, avant de conclure à la réussite de la mission. Chez 20 minutes, on salue le caractère universel des épreuves par lesquelles passe Louise et donc la facilité avec laquelle le spectateur peut s'identifier au personnage, mais regrette que la production ait choisi pour interpréter le rôle de Louise une actrice cisgenre, c'est-à-dire une femme de naissance, en l'occurrence Claire Nebout. Apparemment, chez TF1, on a cherché longtemps, comme l'explique Pascal Schuller, qui s'est occupé du casting à Libération, une transsexuelle pour jouer Louise, mais sans succès. Libération qui parle de fiction un peu caricaturale, mais qui a le mérite, je cite, de porter à l'écran les galères et discriminations vécues par les personnes trans. Encore une fois, l'intérêt moral l'emporte pour le journal sur les critiques esthétiques. C'est la même chose peu ou prou dans Les Inrocks, où l'article conclut même « Louise fera date ». Il n'y a guère que le magazine Vanity Fair pour oser une franche critique sous le titre « Louise, la révolution ratée de TF1 », abordant la nouveauté qu'elle constitue dans le contexte d'un renouvellement espéré de la fiction télévisée sur la première chaîne. L'article épingle à la fois les incohérences scénaristiques, la banalité de l'intrigue, la pauvreté des dialogues et des personnages qui finalement ne font, selon lui, qu'ajouter aux clichés sur les personnes trans et sur les femmes en général. Une chose est sûre, le public a été au rendez-vous puisque le soir de diffusion, TF1 a pris une place de leader souvent concédée aux autres chaînes ces dernières semaines, avec plus de 4 millions de téléspectateurs. Que faut-il penser de ce succès de Louise ?
Question qu'on pose, allez, à Iris Bray pour commencer.
Moi, je suis très contente de ce succès. Alors déjà, j'aimerais juste reprendre un terme transsexuel. C'est-à-dire que transsexuel, ça veut dire que la personne a subi une opération, ce qui est le cas pour Louise, mais qui n'est pas le cas d'autres personnages de série. Donc il faut parler de personnes transgenres, si on n'a pas envie de regarder sous leur culotte ce qu'il y a. Et donc, pourquoi est-ce que Louise, je trouve ça bien ? Ben, moi, j'aime bien regarder de temps en temps Sous le soleil. Et c'est juste Sous le soleil avec un personnage principal qui est trans. Donc, ça apporte d'autres problématiques. Mais je veux dire, c'est un soap, c'est un feuilleton TF1. Ça n'a pas l'ambition d'être intransparente ou d'être une autre série sur une chaîne qui se voudrait avec une certaine... une certaine cohérence artistique. Je veux dire, on n'est pas là pour ça. Je veux dire, c'est un soap, c'est un feuilleton, c'est un Sous le soleil. Les personnes qui ont écrit ça ont écrit Joséphine Ange Gardien et Sous le soleil. Donc, on peut ne s'attendre qu'à ça. Donc, si on a envie de regarder quelque chose pour se distraire et qu'en plus, quand on se distrait, on voit juste quelqu'un qui est peut-être un peu différent de nous, moi, je trouve ça plus rafraîchissant que d'avoir un personnage comme voilà la Laure de Sous le soleil qui était une bombe de 20 ans qui s'occupait que de ses petits amours. Bon ben voilà, ça on l'a vu pendant des années sur TF1. Si là on peut avoir une femme de plus de 50 ans qui se pose des questions, ben je trouve ça au moins un peu plus intéressant.
Antoine Guillot.
Je ne pense rien de particulier de ce succès, dans la mesure où je regardais assez peu Sous le soleil et que quand je tombe sur ce genre d'écriture, je suis toujours effaré que ça face autant d'audimates. Donc c'est vrai que j'ai essayé de faire mes devoirs et de regarder un bout et j'ai lâché au bout d'une demi-heure parce que je trouve, alors vous trouvez peut-être When We Rise mal écrit, mais là c'est plus écrit du tout. Effectivement, la grande obsession c'est qu'est-ce qui se passe sous la culotte de ce personnage féminin, parce que sans arrêt c'est est-ce qu'elle s'est, alors tu t'es fait opérer ou pas, comment, pourquoi c'est très 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 mal écrit. En même temps que TF1 passe à ça, et assez symptomatique d'un changement qui est assez large, puisque en effet ils perdent des parts de marché sans arrêt. Ils ont fait venir un directeur de programme de Canal+. Ils vont essayer de le changer du tout au tout. Et voilà, la mutation de TF1 va être intéressante à observer dans les 5 prochaines années. Après, voilà, ils se mettent dans l'air du temps. Ils constatent que ça marche et que ça fait venir du monde. Donc très bien.
Romain Burel.
Alors l'air du temps, moi. TF1 a finalement, quand on regarde un petit peu les séries télé de TF1, on peut en penser ce qu'on en veut sur la facture. En tout cas, ce qui est une chose est sûre, c'est qu'ils se sont toujours intéressés aux questions sociétales depuis très longtemps. Des séries comme Une famille formidable, aborder la question de l'homosexualité dès le début des années 90 de manière récurrente avec des personnages, etc. Je crois la série a même célébré des mariages homosexuels pendant la loi venait à peine d'être votée qu'il y avait déjà des mariages gays dans la série. Donc c'est quelque chose. On fait souvent un mauvais procès à TF1 en disant qu'il. Moi, je me rappelle avoir répertorié le nombre de personnages LGBT dans les séries TF1, c'était pas si mal comparé à Canal+ ou M6 où il n'y en avait pas, en tout cas à l'époque. Donc finalement, je trouve que TF1 creuse quelque chose qui est déjà entamé depuis très très longtemps. Maintenant, moi c'est une série que j'aurais adoré pouvoir dire que je l'ai aimée, je l'ai haïe, enfin vraiment c'était terrible, pour des questions de jeu, pour des questions d'obsession sur la génitalité des gens, parce qu'on ne parle que de ça effectivement, de savoir elle s'est fait opérer absolument ou pas, enfin... C'est consternant. Et puis, au-delà du jeu, je passerai sur cette interview accordée à Télé Z de Claire Nabou, qui était juste catastrophique, où elle confond travesti et transformiste et personne trans. Ce qui prouve qu'une seule chose, d'ailleurs, c'est qu'elle ne s'est pas intéressée à son sujet. Et c'est le plus grand regret que je peux faire sur cette série, le plus grand reproche que je peux faire à ses auteurs, c'est qu'ils ne se sont pas intéressés à ce sujet. C'est pas possible qu'ils aient parlé à des personnes trans pour en arriver à ce résultat. Là, pour voir une femme trans passer la tondeuse avec les talons aiguilles, quoi. Et encore, c'est la chose la plus anecdotique que je retiendrai de la série, mais il y a pire. Et vraiment, je trouve qu'on ne peut pas se saisir de la vie des gens, aussi en plus difficile soit-elle, et la malmener et pas s'intéresser un minimum à eux, en fait. Et autant peut-être dans When We Rise, dont on parlait tout à l'heure, il y a peut-être énormément de consultants, autant là, franchement, il y en a pas assez, manque. Quoi.
Ouais. Oui, non, mais c'est le problème, c'est que, je disais tout à l'heure, When We Rise, c'est formidable que ce soit ABC, même si j'aime pas la série. Je pourrais dire la même chose de Louise, qui est effectivement très éprouvant, et que j'ai regardé en entier, moi, Antoine. C'est un petit peu moins éprouvant le deuxième épisode, mais enfin, vraiment, c'est parce qu'on a déjà tellement eu du mal au premier qu'on doit se dire, finalement, qu'on s'est un tout petit peu habitué à la médiocrité. C'est très mal écrit, c'est très mal joué. Ça dit quand même pas grand-chose, en effet, de ce que c'est que la vie quotidienne d'un ou d'une trans. Il y a juste ce moment où pour porter plainte au commissariat de police, là, quand on montre sa pièce d'identité masculine alors qu'on est une femme, la plainte peut pas être reçue. Alors j'imagine que ça doit être la seule consultation, si je puis dire, qui a été faite. Bon, mais je pense que de la même façon qu'on dit tout à l'heure, si When We Rise, ça arrive à toucher les électeurs de Trump, on va dire ça pour aller vite, pour reprendre ce propos-là, que 4 millions et un peu plus de personnes sur TF1 soient sensibilisées d'une façon ou d'une autre à la question de la vie quotidienne d'un ou d'une trans, je trouve ça. Mais... plutôt bien, Lucille,
si c'est sensibilisé dans le sens d'une sorte de curiosité, en effet, très, très portée sur ce qu'il y a sous la culotte des trans. Enfin, honnêtement, c'est à nouveau, c'est contre-productif.
Du dépôt de plainte, de l'agression, du regard des autres, sur l'oppression quotidienne et l'ostracisation que cette femme subit. Je parle de ça, moi, l'obsession génitale, évidemment, parce que j'imagine que c'est des conversations de café de commerce et que c'est l'écriture TF1. Enfin, on est sur le plus grand dénominateur commun, effectivement, je pense que ce sont les questions que les gens se posent. Mais alors, transsexuel, ça veut dire que, et quoi, alors, ils ont changé de sexe complètement?
Oui, mais c'est important.
Bon, c'est pas ça qui est important pour moi.
Moi, je pense que c'est important, en fait, qu'il y ait ces questions qui sont tellement taboues, qui soient déjà posées. Oui. Pour moi, Louise, ça montre quand même les violences que subissent les minorités. Et ça, on le voit. Moi, je suis désolée, la scène où elle se fait taper dans la rue pour rien, moi, ça me touche. Mais donc, il y a quelque chose qui fonctionne. Autre chose, oui, effectivement, on est obsédé par ce qui se passe sous la culotte des trans, mais ils en font quelque chose. C'est-à-dire que c'est un personnage qui a une vie sexuelle. Vous regardez Transparente, on doit attendre le 10e épisode de la 2e saison pour que Maura, qui a plus de 60 ans, couche avec quelqu'un. Là, c'est évacué dès le premier épisode. Donc, c'est quand même une femme qui désire et qu'on désire. Et ça, je trouve que c'est très novateur. C'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose au scénario, en tout cas, qui mérite d'être souligné.
Je suis d'accord avec vous, Iris.
Un autre Romain, qui est vraiment fondamental là par contre pour la série, c'est que je trouve c'est que on ne voit pas de personnes trans en fait dans cette série. On n'en voit pas. C'est-à-dire quand il y a un moment donné, il y a un personnage secondaire voire tertiaire qui apparaît, qui est censé incarner une personne trans, c'est un acteur cisgenre à qui on a mis une perruque de travers. C'est juste consternant quoi. Je veux bien.
Il y en a beaucoup dans Transparente.
Et il y a énormément de rôles de second rôle.
Bien sûr, deux.
Si, si, il y a plus.
J'ai dû arrêter avant de les voir.
Il y a la colocataire de Maura, par exemple, etc. Il y a quand même plus. Et puis il y a toute une vraie faune, en fait, qu'on voit de Los Angeles, etc. Il y a énormément de.
Pas les rôles principaux.
Non. Mais justement, là, c'est-à-dire que je peux entendre. Après tout, si on accepte que Transparent est une bonne série et que.
On n'est pas sûr de l'accepter,
et que c'est un acteur.
On va pas y revenir
avec. Et que c'est un acteur qui joue le rôle d'une femme trans, on peut encore plus facilement, je trouve, accepter que ce soit une actrice. Ça, par contre, c'est un bon point. Je préfère 10 000 fois avoir une actrice incarner une femme trans à la télévision que de voir un homme grimé en femme. Alors ça m'est absolument insupportable.
Lucille ?
Je trouve intéressant aussi qu'aux États-Unis, on ait osé dans Transparent, c'est quelqu'un qui est en transition. Et ce qui est intéressant, c'est ça. Et ça, pour le coup, c'est, je trouve, plus problématique de le montrer, parce que ne serait-ce que c'est un problème d'image et que du coup, ça pose des questions vraiment d'image. Alors que là, on arrive et c'est fini. Et du coup, c'est beaucoup plus facile, d'une certaine manière, de montrer ça. Et bon.
Il n'y a eu que 2 épisodes. Attendons maintenant, du coup, il va y avoir le reste de la série.
T'es signé, ça ?
Je pense, vu les audiences, oui.
Bon. On suivra, et pour l'instant, on referme les portes de ce petit salon. La deuxième série à notre affiche, c'est Beau Séjour, 10 épisodes de 52 minutes en cours de diffusion sur Arte, disponible aussi en coffret DVD Blu-ray chez Arte Édition. Beau Séjour qui avait reçu le prix du public au dernier festival Sérimania. Point de départ, c'est simple, hein, finalement, une adolescente, Cato, qui se réveille à l'hôtel Beau Séjour, couverte de sang, petit problème, effectivement, quand elle va dans la salle de bain, elle se voit morte dans la baignoire.
Où tu vas ?
Ailleurs. Et toi, Christelle, tu dis quoi ?
Surtout, tu me préviens si t'as des nouvelles de Cato.
Ouais.
Maman, il s'est passé un truc, faut prévenir les flics, maman.
S'il te plaît, Cato, tu peux répondre.
Salut, c'est Cato, laissez un message après le bip.
Mais je suis là, regarde. Je te jure, maman, faut que t'appelles la police, je me suis réveillée. J'avais les mains pleines de sang et j'étais à l'hôtel Beau Séjour. Maman. Mais pourquoi tu m'ignores ? Je peux savoir pourquoi tu m'ignores ?
Beau Séjour. Bon, on était un peu choqués hein, parce qu'on a regardé en flamand. Moi, j'adore entendre parler flamand. Donc, nous, on a vu Beau Séjour. Cato. Donc on est un peu déçu de cette VF, mais bon, il y a des versions multilingues, même sur la télé, évidemment. Préférez le flamand quand même, c'est tellement... moi je trouve ça très beau, très chantant. Pas vous Antoine Guillot ?
Non, mais malheureusement la version multilingue sur Arte, c'est le français ou l'allemand.
Ah bon ?
Non, pas du tout.
Moi je l'ai vu.
J'ai mal manipulé mon bouton.
En
alors,
flamand parce que avec des sous-titres français.
Moi je l'ai vu en DVD en flamand et effectivement la langue flamande va très bien avec cette série parce que à l'image on a à peu près la même chose qu'on entend au son, ce côté un peu rugueux et froid en même temps.
Et ouaté aussi.
Voilà, c'est ces lumières un peu hivernales, verdâtres, assez glauques, sauf ce personnage de fantômette qui se promène en motocross traversant le paysage d'un côté à l'autre, qui a une forte...
Je me demande si elle fait le plein, moi, du coup.
Mais c'est pas grave, c'est une moto fantôme.
Bah oui, c'est pour ça, ça va être très pratique.
Depuis le début, donc... c'est assez amusant, parce que ça correspond à un fantasme morbide qu'on peut tous avoir, qui est celui d'assister à ses propres funérailles et de voir ce que les gens...
Vous parlez
mais
pour
oui,
vous, là,
c'est un
toi,
grand
non.
classique.
Vous êtes très surpris.
De voir ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes pas là.
Ah non, on n'a pas envie.
Sauf que... on peut le dévoiler tout de même, qu'il y a certains certaines personnes la voient. Quand
allez,
même.
On peut le dire.
C'est
oui.
quand même le principe même. Voilà. Alors pourquoi certaines personnes
cinq.
La voient
ça, le club on le saura. Des cinq.
On le saura plus tard.
Il y en a qui la voient, qui l'entendent, avec qui elle peut communiquer. Voilà. Et tout le reste.
Et elle qui, avec qui elle peut non seulement communiquer, mais interagir. Mm-hmm. C'est-à-dire, il y a des contacts physiques possibles, agréables ou désagréables. Alors après, je trouve que c'est une assez riche idée. Après, moi, ce qui me soucie un peu, c'est que très vite, elle accepte qu'elle est morte et hop, elle mène l'enquête. C'est son côté fantomette, effectivement, sa résilience absolue qui fait que quelque chose de plus profond nous échappe, quoi. Enfin, il y a le côté métaphysique, le côté extrêmement angoissant que ça pourrait que ça pourrait avoir. Les personnages, pareil, qui la voient, acceptent très vite. Il n'y a pas de problème. On est ravis de la revoir de temps en temps. Alors que l'enquête est finalement assez plaisante à suivre. Le côté très glauque de toute cette société campagnarde est assez est assez amusante. Après, je pense qu'il faut laisser un certain temps entre les épisodes et pas faire trop de binge-watching, de visionnage continu, comme je l'ai fait, parce qu'il y a un côté très répétitif quand même. Je parle de ces trajets, justement, sur la campagne, et je trouve que ça exploite pas assez toutes les potentialités vraiment à la fois métaphysiques, horrifiques, policières de l'histoire. Mais c'est assez plaisant et sympathique à suivre.
Hein. On a un beau binôme de fédérales, hein, qui sont des deux inspectrices qui sont quand même assez phénoménales, l'une et l'autre. Romain Burel ?
Moi, contrairement à Antoine, j'aime beaucoup les plans sur la campagne
flamande.
On la voit passer en mobilette.
Un peu répétitif,
je m'en lasse pas. Je crois que c'est même ce que je préfère dans la série.
On fera un montage avec que ça.
C'est pas une mobilette, c'est une moto.
Oui.
C'est ce que, enfin, j'aime beaucoup, en tout cas, je trouve l'esthétique qui rappelle, enfin, moi, qui me fait penser un peu aux Dardennes. Enfin, j'aime beaucoup cette région-là. Je trouve ça assez, enfin, très réussi. Je trouve qu'on prend un peu une leçon, d'ailleurs. On parlait tout à l'heure de la facture de certaines séries françaises. En tout cas, je trouve qu'en termes d'esthétique, etc., et de mise en scène, je trouve que la série
c'est
vraiment
tenue.
Ouais, elle est vraiment vraiment redoutablement belle à regarder. Moi, je me suis vraiment laissé happer par cette histoire au départ, en me disant, dès le premier épisode, je me suis dit, oh là là, ça va être une espèce de rencontre entre Ghost avec Patrick Swayze et le sixième sens, en fait. J'avais un petit peu peur que ça se résume à ça, et puis finalement on se laisse avoir. J'aime beaucoup les relations qu'il y a entre les personnages, cette jeunesse qu'on connaît assez mal finalement nous en France, fans de motocross. voilà, je trouve qu'on
il y en a en France, hein, vous savez aussi, c'est pas qu'en Flandre. Hein.
Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est...
Vous connaissez mal les fans de motocross tout court.
Voilà, sûrement.
Voilà.
Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir justement ce fantasme absolu de voir cette petite société interagir sans qu'on... Enfin, sans que les gens sachent qu'on les regarde, quoi. Ça, j'ai trouvé ça assez bien senti. Et quant au fait qu'effectivement certaines personnes peuvent voir Cato, je trouve ça, c'est quand même une riche idée, justement. C'est ce qui fait qu'au très vite on passe à autre chose que simplement être dans ce sixième sens, mythe, ghost, quoi.
Iris Bray.
Bah c'est ça, moi j'adore le pitch, après un peu moins la série. Je trouve le pitch vraiment génial et je rejoins en fait ce que dit Antoine principalement, c'est-à-dire que moi je l'ai binge-watché et que le problème c'est que ça s'essouffle. Voilà, ouais. J'ai enchaîné les épisodes et du coup ça s'essouffle assez rapidement. En fait j'aurais adoré que ce soit 26 minutes et pas 52, je pense qu'on aurait gagné en fait à resserrer parce que c'est quand même assez bien pensé et les scènes en fait où Cato et donc le père de Cato la voit mais sa mère ne la voit pas et ces scènes à trois moi m'intéressent parce que déjà du point de vue de la mise en scène je trouve ça marrant à regarder et puis je trouve que l'interaction entre un père et une fille et de savoir que sa fille est morte mais qu'il a quand même accès à elle alors qu'il est face à son ex-épouse qui elle est en plein deuil
à qui il a moins accès on va dire parce qu'elle est remariée. Non mais c'est ça aussi.
Oui, mais que lui il ait accès à sa fille et qu'il n'ait pas accès à son ex-épouse.
Voilà, c'est
donc, bref, il y a une distanciation. Je trouve que voilà ce rapport-là entre le père et sa fille est assez émouvant finalement parce que qu'est-ce qu'on fait de face à la perte de quelqu'un qu'on peut encore voir et comment faire le deuil de quelqu'un quand elle est encore là quand on est un parent. Voilà, je trouve que c'est pour moi c'était l'interaction que j'aimais beaucoup et autre chose que j'ai trouvé quand même bien dans ce scénario, c'est le personnage de la belle-sœur puisque Cato a une belle-sœur qui va tout d'un coup commencer à faire les mêmes choses qu'elle, donc à lui voler son petit ami, lui voler sa tenue de motocross.
Une quasi-sœur, non, techniquement me semble-t-il. C'est la fille
de. C'est la fille du nouveau mari.
Du nouveau mari de ça. Donc on appelle ça une quasi-sœur. Pas une belle-sœur.
Ah bon,
mais je vous expliquerai plus tard.
Oui, plus tard, les familles recomposées.
Quasi-sœur.
Mais donc cette quasi-sœur qui.
C'est le terme officiel. Hein,
d'accord, je crois. qui s'immisce finalement sous la peau du fantôme, alors que le fantôme et elle peuvent discuter. Ça, je trouve que c'est assez riche. Mais en tout cas, ça ne m'a pas assez happé sur la continuité.
Alors là où je vous rejoins, c'est que passé les deux premiers épisodes, je trouve qu'il y a quand même un gros ventre mou et que ça se réveille vers le septième, me semble-t-il. Et parce que la crainte, c'est un peu comme avec The OA, tout étant relatif par ailleurs, c'est-à-dire que le pitch, le point de départ est forcément intéressant, mais quand même, on se demande beaucoup tout au long des épisodes où est-ce qu'ils vont nous emmener, s'ils vont nous emmener quelque part. Et de fait, il y a quand même une forme de résolution qui est d'ailleurs pas forcément la meilleure chose, mais au moins ça, non, c'est vrai que on va dire que la fin est quand même très très explicative, on n'en dira pas plus à nos éditrices et auditeurs qui vont la découvrir. Là, c'est vraiment en termes de réalisation d'écriture ce qu'il y a de plus faible, ce qui est dommage à la fin d'une série qui tient pas mal de promesses, mais bon, il y a une ambiance, il y a une atmosphère, il y a vraiment des beaux personnages. C'est vrai que les deux inspectrices fédérales, l'une comme l'autre, elles sont quand même très riches, y compris la petite souris là, qui est très étrange, qui sort un peu des frères Cohen là, pour le coup, plutôt que des frères Dardenne, me semble-t-il. On est plus dans Barton Fink que dans Rosetta, on va dire. Moi, j'aimerais bien un remake japonais par Kiyoshi Kurosawa, parce que lui, il sait très bien filmer les fantômes, et que je pense qu'il aurait vraiment autre chose à apporter, et pour le coup, la dimension, on va dire, métaphysique, existentielle, qui manque un peu, c'est vrai, dans cette série. On va lui faire passer les DVD à Kurosawa, il pourrait en faire quelque chose. Lucine, comment?
Moi, j'ai beaucoup aimé le premier épisode, et puis j'ai trouvé aussi que ça se ralentissait. Alors, c'est vrai que c'est un rythme particulier, donc pourquoi pas rentrer dedans en acceptant de l'ennui, parce que c'est vrai qu'il y a des passages assez ennuyeux.
Mais il y a quand même du cliffhanger.
Oui, à la fin, mais il y a souvent, les épisodes sont construits un peu, le début est assez accrocheur, il y a quand même un petit ventre mou, et puis ça repart sur la fin. Ouais. C'est vrai que c'est assez systématique de ce point de vue-là. Ouais. Moi, je trouve que les potentialités, en effet, métaphysiques, mais du coup, fantastiques aussi, sont pas très exploitées, c'est-à-dire que ça se déploie pas vraiment. Il y a ce principe de départ qui est passionnant parce que ça a une question de point de vue, donc c'est extrêmement intéressant. Et finalement, le fait qu'elle soit là et en même temps qu'on ne la voit pas, c'est pas vraiment exploité tout le temps par le scénario. Et notamment, le fait qu'elle se mette elle-même à enquêter sur sa propre, parce que c'est ça l'histoire.
Oui, elle enquête sur sa mort. Sur sa propre, parce qu'elle a oublié les 24 dernières heures de sa vie.
Voilà. C'est finalement, elle utilise un peu les mêmes outils qu'ont à disposition les policiers ou les autres personnages. Donc, c'est un petit peu décevant de ce point de vue-là.
Mais elle peut tout réunir parce qu'elle peut être partout. Romain Burel.
Moi, ce qui me plaît beaucoup, justement, c'est qu'on évite absolument tout ce qui est effets spéciaux, quoi. J'adore l'idée qu'on voit vraiment des vrais comédiens jouer, etc. C'est beaucoup plus agréable que s'il y a un moment donné, il y avait quelques subterfuges métaphysiques un peu à la Mort-Moelle-Neuve, quoi, concrètement.
Mais c'est justement ça qui est fort, c'est qu'on croit tout de suite à ce pitch et à cette chose qui est totalement incroyable. C'est-à-dire qu'on se pose même pas la question de est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas.
On
adhère au pacte. Moi, ça me fait beaucoup penser à la série True Detective. Dès le générique, on a l'impression d'être en Louisiane, en fait.
Oui.
Mais c'est un peu, voilà.
Oui, c'est vrai.
Il y a quelque chose
de la
saison 1.
C'est revendiqué,
très beau,
oui, mais qui du coup me rappelle ça, en fait. On a deux inspecteurs qui sont des inspectrices, et puis on a quelque chose comme ça, on se laisse emporter dans cette enquête sans vraiment vouloir savoir la fin.
C'est pas le même genre de résolution. Pour juste dire ça comme indice entre trous détective saison 1.
Mais en Belgique.
Et beau séjour.
Et d'ailleurs, la belgitude de la série est assez importante, parce que je crois que les auteurs de la série étaient très, très influencés par ce qui s'est passé avec l'affaire Marc Dutroux, en fait.
Oui. C'est ce qui est dit, en effet, dans quelques entretiens que j'ai pu lire. Alors, Nathalie Bastens, Kat Bells, qui, alors, non seulement ont créé, co-créé, mais réalise tous les épisodes, et puis aussi San Neuens, Bert Van Dell, qui sont les créateurs de cette série Beau Séjour, à voir en flamand, bien sûr. Elle est depuis 2 mars sur Arte, elle est disponible d'ores et déjà en coffret DVD et Blu-ray chez Arte Éditions.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et la troisième série à notre affiche ce soir, c'est Big Little Lies, du revenant David E. Kelly, créateur d'Ally McBeal et de The Practice, entre autres, réalisé par Jean-Marc Vallée, créateur de Dallas Buyers Club. Mais cette série, mini-série en 7 épisodes, est en fait née de la volonté de Reese Witherspoon et Nicole Kidman. De femmes ayant clairement annoncé que Big Little Lies a été conçu contre le modèle majoritaire hollywoodien, c'est-à-dire un modèle dominé par les hommes. C'est une adaptation d'un best-seller de l'Australienne Lyane Moriarty, une action qui se situe pour la série, en tout cas dans la petite ville de Monterey, en Californie du Nord. Jane vient d'y emménager avec son petit garçon, c'est une mère célibataire au passé mystérieux. Elle va découvrir un monde très névrosé de mère au foyer, de leur riche mari, donc qui compose cette petite communauté.
Are you new to Monterey?
Yeah, we just moved here a few weeks ago.
You're gonna love it.
You're so nice.
This is Monterey. We pound people with knives
to death. Everybody wants to prove who's the richest.
We're talking about viciously competitive people.
And at the root of it was Madeline. Exactly how psychotic do you think I am? He's a lot younger than her. Celeste. She must be pretty, you know.
So bad.
We are so bad.
Jane just didn't fit here. Thought it was nice for the nannies to get to know each other.
Jane is not a nanny.
Kind of like a dirty old Prius parked outside of Barney's.
She's a mom. She's young. Like you used to be?
Like we used to be? Bitch.
Ticking bomb. I'll leave it at that.
Itty bitty ball of rage.
Battle lines were drawn.
Things never blow over. They blow up.
Boom.
Did you ever want it? Did you want it back?
Happy or sad.
People usually know.
It's like I'm on the outside looking in.
I just feel like I'm losing control.
So we're like seriously using the word murder?
Big Little Lies en cours de diffusion. Le cinquième épisode est passé hier sur. Alors, c'est quelle chaîne d'ailleurs? J'ai oublié.
OCS.
Ouais, et aux États-Unis.
Et HBO.
Et, oui, c'est HBO. Tiens, bah, Iris Bray, alors, Big Little Lies.
Alors, il faut expliquer que la série est encadrée par un meurtre, en fait, parce que donc, ça s'ouvre, on sait que quelqu'un est mort, on ne sait pas qui, on ne sait pas qui l'a tué.
Moi, ça ne vous rappelle pas quelque chose?
Si. mais en fait, ça me rappelle Desperate Housewives, qui était construite de la même façon. La première saison qui s'ouvrait avec le meurtre d'Alice, et on ne savait pas comment elle était morte. Bref, c'était un suicide, je spoil, c'était il y a assez d'années.
Et peut-être la première saison de The Affair aussi,
bien
éventuellement.
Sûr. Bien sûr, beaucoup de séries, mais en fait, c'est ce qui m'intéresse.
How to Get Away with Murder aussi.
Voilà. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui m'intéresse le moins dans cette série. J'ai eu beaucoup de mal et ce quatrième épisode m'a relancée et je pense que je vais continuer à regarder puisqu'on n'en a vu que quatre en France.
Il y en a plus de trois, ça va.
Enfin, donc, ouais. Bah, oui, mais justement, c'est le côté Desperate Housewives qui m'intéresse et non pas ce meurtre qui fait qu'il y a énormément de va-et-vient qui casse en fait à chaque fois le rythme et qui n'apporte pas grand-chose, enfin pour l'instant. Et ce qui m'intéresse, c'est donc Nicole Kidman et Reese Witherspoon qui se sont dit qu'elles allaient quand même faire cette série un peu contre le patriarcat. C'est quelque chose qui se ressent pas tellement au début. On se dit, tiens, qu'est-ce que c'est que, pourquoi est-ce que c'est contre le modèle majoritaire? Alors, c'est la manière de filmer, oui, ne sexualise pas les femmes, mais on peut pas dire que la manière de filmer soit très intéressante totalement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le personnage de Nicole Kidman. Qui est dans un rapport avec son mari compliqué puisqu'il la bat et que c'est quelque chose qu'on voit très peu en fait. Et cette relation d'emprise, je trouve, au quatrième épisode devient intéressante. J'ai lu le critique du New York Times qui appelait ça comme quelque chose comme 50 Shades of Grey, mais je suis pas du tout d'accord avec ça, puisque là le rapport n'est absolument
rien
pas
voir,
consensuel et ne se passe pas dans certaines règles. Et notamment, il y a une scène chez un psy de couple où on voit ce personnage de Nicole Kidman qui est au bord de d'exploser, en même temps qui est dans la retenue. Et je trouve que là on commence à s'approcher de quelque chose d'intéressant, mais les trois premiers épisodes sont vraiment compliqués à regarder.
Lucille Gomeau.
Moi, je suis assez d'accord avec Iris. J'aime plutôt la série et plutôt ce côté-là, le volet vraiment Desperate Housewives sur ces femmes au foyer. Il faut quand même dire que pour le coup, je trouve que la réalisation est belle et que notamment le décor ou enfin la manière dont les lieux sont filmés est assez inédit. Pour le coup, c'est vrai que la trame, on a beaucoup vu et que à raconter comme ça, ça a l'air de. Enfin, je ne sais pas si on donne très envie aux auditeurs parce que on a l'impression qu'on a vu mille fois cette série. Mais il y a quelque chose dans la manière de filmer le lieu, donc qui est cette banlieue californienne où il fait pas du tout beau. Il y a une
Californie
sorte de brume.
Du Nord.
Voilà, la mer est pas belle, elle est verte, on n'a pas envie de s'y baigner. Ils habitent dans des espèces d'immenses maisons. Non, mais les maisons sont magnifiques.
Ah bah c'est maison et déco.
Incroyable.
Version milliardaire.
Mais c'est l'enfer en même temps. Vraiment, je trouve que la manière dont les décors sont filmés.
Faut juste qu'ils s'en aillent et que nous on s'y installe, c'est tout. En fait, et ce sera le paradis.
Justement, c'est assez bien fait de ce point de vue-là. Je trouve que les personnages ont quelque chose d'à la fois absolument monstrueux et touchant et que je suis d'accord, je trouve que ça se creuse assez bien. Là, dans le personnage, notamment dans le couple, entre de Nicole Kidman et Alexander Skarsgård, je sais jamais comment on prononce son nom. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est en train de se nouer qui est intéressant. Et puis je trouve que les enfants par exemple sont extrêmement bien interprétés, ce qui est quand même rare dans les séries et dans les films en général, il faut le remarquer.
Romain, il n'arrête pas de faire les grimaces tout à l'heure.
Le personnage d'enfant, c'est intéressant et là je les trouve assez passionnants, ce qui se joue, parce qu'il y a un meurtre, mais il y a aussi un problème avec les enfants au départ. C'est aussi une des intrigues qui se met en place. Donc je trouve la série plutôt convaincante et je trouve que Reese Witherspoon est une actrice formidable, vraiment. Je la découvre et je la trouve excellente.
Moi j'adore son personnage et je l'adore elle. Mais mon personnage préféré c'est la petite fille DJ.
Enfin moi je la hais.
Moi je l'adore.
Parce que
Romain Burel.
Elle est monstrueuse.
Elle est censée avoir 6 ans dans la série et en fait elle parle comme une femme de 42 ans quoi. Elle est fan de David Bowie, elle a un avis sur
mais
tout.
C'est ça qui est génial.
Il y a pas une seconde où on y croit quoi.
Bien sûr que si.
C'est
une des. Vous connaissez pas les gens qui font du motocross. Vous connaissez pas les enfants de milliardaires de la côte californienne. Écoutez vraiment Romain Burel, ça va pas du tout.
Il y a beaucoup de. On parlait de pacte tout à l'heure pour rentrer dans une série. Je trouve qu'il y a beaucoup de pactes là auxquels on ne croit pas. Et voilà, notamment cette intrigue dont on peut parler peut-être une minute, hein, de fait de cet enfant qui aurait agressé une autre une petite fille dans... Oui, déjà, qui s'appelle Ziggy.
Ziegfeld.
Et qui aurait agressé une de ses camarades de classe. Et bah,
c'est
qui refuse
Yasmina
de reconnaître.
Reza, Dieu du carnage, très clairement.
Et la façon dont cette intrigue dérape en une espèce de pugilat public, etc.
Ouais, c'est ça.
Même là, on n'y croit pas. Même là, on se dit que le moindre instit...
Vous connaissez mal les écoles également. Hein.
Mais c'est surtout les États-Unis, comment ça dégénère. C'est vraiment la société américaine. On focalise sur ses enfants. Alors chacun est appelé à être un petit individu. Et dans
non,
la communauté.
Moi, j'y crois pas une seule seconde. Je crois pas non plus qu'on appelle un avocat pour une histoire de gamin de 6 ans, etc.
Si.
Et en tout cas, il y a quelque chose qui, moi, je trouve du domaine de la promesse, là, dans lequel je rentre pas dès le début de la série.
Mais. Ah oui, moi, j'aime pas la série par ailleurs, je dirais pourquoi, mais pour moi, c'est très réaliste, au contraire, ce qu'on voit là. C'est ce qui m'intéresse le plus, c'est que
C'est névrose là, bien sûr.
Ah ouais, et c'est effectivement d'appeler son avocat parce que son enfant a peut-être été bousculé. Antoine Guillot.
C'est ça qui est assez intéressant, c'est que ce sont des personnages très théoriques d'une certaine façon. Chaque enfant est le double, la prolongation du personnage de parent. C'est montré comme ça dès le générique, avec ce défilé où chacun se montre dans sa meilleure apparence. Et on a très littéralement les enfants comme projection de soi-même, de ses angoisses, de ses idéaux, de sa... c'est pas pour rien que Nicole Kidman a des jumeaux, la contradiction entre la dualité entre l'apparence, c'est ce qui se passe derrière, l'envie qu'on suscite et la douleur intime. Mais toutes ces questions théoriques arrivent à être assez bien incarnées par ces comédiennes. Ce sont quand même pas des stars complètement pour rien. D'autant qu'elles jouent beaucoup. Non, mais elles jouent beaucoup avec leur propre image. Nicole Kidman joue presque avec toute sa filmographie sur son rapport névrosé à la sexualité. Reese Witherspoon sur son côté insupportable qui cache en fait une douleur qui est assez inédite aussi. Cette manière d'être envieuse, d'être peinée de ce qui arrive à son ex. Parce qu'il a une femme qui semble être plus épanouie, plus intéressante qu'elle-même, et ces personnages gagnent beaucoup en profondeur. On n'a pas cité non plus le côté cœur antique, là c'est piqué à Trou Détective, sur les interrogatoires policiers qui donnent des éclairages assez énigmatiques sur ce qui se passe, et qui là est un peu lourd, parce qu'on voit beaucoup, beaucoup les intentions, y compris dans la réalisation, dans les flash forward. Enfin, on a une espèce de vade-mecum de tout ce qui peut se faire de plus audacieux dans les séries. Il y a 10 ans et qui sont maintenant complètement digérés, mais la série arrive à exister, non seulement grâce à ce cadre magnifique qu'on voudrait tous habiter, avec cette belle photo Instagram pour regarder des couchers de soleil depuis sa terrasse de villa somptueuse, mais parce que les personnages sont là pour le coup véritablement incarnés et se complexifient au fur et à mesure des épisodes.
Alors peut-être avec cette réserve près, alors j'ai oublié la remarque que je voulais faire sur ce que vous venez de dire, mais là où c'est contre le modèle dominant peut-être, c'est que pour moi ce sont les figure des maris qui sont complètement archétypaux, vides, sans intérêt, sans épaisseur. Enfin, ils sont vraiment réduits à
c'est juste des personnages secondaires. Enfin, on a l'habitude de voir...
Donc c'est là que c'est contre le modèle dominant.
Oui, bien sûr, c'est parce qu'on raconte des histoires de femmes.
On est vraiment sur un point de vue de femme. Pardon ?
Je pense que c'est vraiment une intention, c'est-à-dire les vider de leur substance.
Mais c'est ça qui est intéressant.
Eux qui sont en général beaucoup trop mis en avant dans la plupart des séries télé.
Ils sont assez caricaturaux, je dirais, entre celui qui fait les sites internet et qui est toujours debout et qui a une grande barbe et qui est extrêmement gentil et qui fait tout à la maison. Effectivement, le mari avec ses pulsions de violence. Ils sont vraiment réduits à des choses très très limités, qui sont souvent en effet des rôles secondaires de femmes. Donc là, ça, c'est plutôt bien. De ce côté-là, ça renverse la donne.
Bah non, parce que je pense que c'est pas l'inversion qui est intéressante, en fait, quand on essaye de déstabiliser le modèle patriarcal, c'est d'en faire autre chose. Donc je suis pas sûre qu'on soit juste dans une inversion. Je pense que,
pour l'instant, oui.
Bah non, parce qu'au quatrième épisode, je trouve que les personnages masculins commencent à aussi prendre un autre visage. Ah bah, je suis désolée, mais d'avoir le mari de Nicole Kidman qui, dans la séance avec la psy, révèle certaines choses, commence à prendre la parole, on s'attend pas du tout à ça. Je trouve qu'on, ah bah non, un homme qui bat sa femme, on s'attend pas à ce que dès qu'on lui demande est-ce que vous battez à votre femme, ils disent oui. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose.
C'est pas tout à fait le cas, mais bon.
Non, mais je trouve qu'il y a une autre épaisseur qui
parfois
est donnée.
Parfois, je m'énerve un peu, dit-il.
Parfois, je la tape un petit peu. Mais je trouve que, en tout cas, mais moi, je trouve ça bien que ce soit pas flagrant, que ce soit une série conçue contre le modèle majoritaire.
Ouais, l'important, c'est que. On va se limiter aussi à la communication de la série.
Non, mais je trouve que justement, moi, ça, c'est pas du tout. Ouais. C'est pas du. On se dit pas, il y a aucun personnage féminin qui explique pourquoi elle est féministe. Pourtant, on voit bien qu'il y a des enjeux féministes pour ces personnages de femmes qui ont décidé de mettre leurs enfants avant leur carrière et qui se retrouvent à 40 ans devant face à des choix de vie. Et
visiblement, dans la presse américaine aussi, ce qui est beaucoup ressorti au-delà des violences conjugales, il y a la question du viol qui est aussi présente dans la série. Alors, scénaristiquement, c'est vraiment très mauvais parce que ça rajoute des couches de flashbacks sur d'autres couches de flashbacks et c'est vraiment pénible. Mais en tout cas, voilà, ça semble aussi être pour une série qui a beaucoup de lumière sur elle, une chose importante. Romain Burel.
Oui, ça, c'est c'est la dimension qui m'a le plus intéressé en tout cas dans la série, c'est-à-dire de voir comment ces femmes réagissent face à la violence et qu'elles peuvent être différentes émanant des hommes. Et je trouve que c'est vraiment ce qui. Il y a notamment une scène où on découvre la paternité du petit Ziggy, etc. Donc j'en dirai pas plus, mais c'est assez bouleversant. Moi, c'est le moment que j'ai trouvé le plus intéressant dans la série télé, qui m'a vraiment cueilli. Et je me suis dit que ça, c'était vraiment très très bien vu. La façon aussi dont le personnage de Reese Witherspoon interagit avec sa grande fille m'a beaucoup intéressé. Parce qu'il y a quelque chose de vraiment assez juste, beaucoup plus qu'avec sa petite fille d'ailleurs. Qui m'a vraiment cueilli. Je me suis dit vraiment, il y a quelque chose d'intéressant. La série, elle a des qualités concrètement. Je trouve parfois j'ai l'impression de voir un espèce de truc étiré avec des longues plages psychologisantes assez fatigantes.
De longues plages musicales aussi, ça meuble.
En parlant de la musique, il y a un côté aussi très un peu trop lisse quoi. La musique toujours très bonne. C'est la bonne chanson, c'est la bonne problème, musique, hein. C'est un petit peu fatigant.
On est d'accord. Bon, allez, plus que trois à tenir, non, on y croit. Big Little Lies de David. Alors, c'est présenté de David Ikele, qui est quand même juste un exécutant au service de ces femmes. Depuis le 20 février sur OCS City et en VOD sur OCS Go. Nous ne quitterons pas ce studio sans avoir la réponse à la question du jeudi hier au soir, Lucille Como. La question déjà, c'était ?
Parmi les personnages qui peuplent le récit Paris est une fête d'Ernest Hemingway, on croise entre autres la grande collectionneuse des années 20. De qui s'agit-il ? Réponse, Gertrude Stein.
Bravo. On fait gagner ce soir des invitations pour les expositions Le Baroque des Lumières, chef-d'œuvre des églises parisiennes. Et puis, de Watteau à David Collection Orwitz, deux expositions au Petit Palais jusqu'au 9 juillet. La question, Lucille ?
Watteau fut très inspiré par la tradition théâtrale italienne. Un de ses tableaux les plus célèbres représente un des personnages de la Commedia dell'arte. Lequel ?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postale à envoyer à auditeur FC, auditeur au singulier auditeur FC, @radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée aux arts plastiques en compagnie d'Anaël Pijat et Florian Guettet à notre affiche Jardin au Grand Palais. 100 chefs-d'œuvre de l'art moderne et contemporain arabe, la collection Bargène, Salas Issu du monde arabe. On évoquera aussi plus rapidement l'exposition de Nicolas Dauban, Les mains sales à la galerie Florent Maubert et Inland, consacrée à la scène norvégienne contemporaine, c'est au CCOD de Tours. Bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture. À 22h15, les discussions du soir et dans quelques instants, le journal de la rédaction.